Le 18-20, c'est d'abord ce que vous devez retenir de cette journée du mercredi 16 février avec le journal de Jérôme Cadet. Bonsoir Jérôme.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Et l'essentiel ce soir, c'est le vrai du faux en Ukraine. Les Occidentaux doutent du retrait des troupes russes.
Oui, aucun signe de reflux des forces russes selon Paris et Washington. Nous verrons comment les Occidentaux s'y prennent d'ailleurs pour suivre les mouvements des soldats russes. Et nous serons à Kharkiv, grande ville de l'Est de l'Ukraine qui célébrait aujourd'hui la fête de l'unité. À la une également, les règlements de compte qui se poursuivent au Rassemblement National. Accusé de sabotage, Nicolas Bay est suspendu du parti avant d'en claquer la porte dans les prochaines heures. Explication d'Yael Goz. Les plaidoiries des parties civiles au procès de Nordal Lelandais, la souffrance de la famille de la petite Maëlys, mise en mots, nous dira Mathilde Vinceneux. Une plainte déposée par une association de malades dans l'affaire des respirateurs Philips. Et puis le gouvernement qui lance une campagne d'information contre le GHB, surnommé la drogue du violeur. Et au téléphone sonne ce soir, Fabienne.
Alors, à 18h15 d'abord, une chose après l'autre, dans Un jour dans le monde. Ce soir, nous sommes entre l'Afrique et l'Europe, alors qu'un mini-sommet consacré à la fin de l'opération Barkhane se tient ce soir. Demain commence le sommet Europe-Afrique. Il y a beaucoup à dire et beaucoup à discuter sur cette refonte de nos relations. À 19h20, le téléphone sonne. Les mains moites, l'estomac noué, la gorge sèche, des tremblements, l'envie de vomir. Prendre la parole en public, ça n'est pas inné pour beaucoup d'entre nous. C'est même la plus grande angoisse sociale, figurez-vous, mais ça se soigne également. C'est un muscle, Jérôme. On vous raconte tout ça, vous nous poserez vos questions au 01 45 24 7000.
France Inter.
Ça devait donc être aujourd'hui ?
La semaine dernière, plusieurs journaux au Royaume-Uni et aux États-Unis avaient cité ce mercredi 16 février comme date du déclenchement d'une offensive russe sur l'Ukraine. À cette heure, il n'en est rien. Je ne dirais pas que ça nous amuse, mais bien sûr, ça nous laisse profondément perplexes. A commenté un brin ironique aujourd'hui l'inamovible ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov. Au-delà de l'intox entre les deux camps et de ses pics à distance, qu'en est-il sur le terrain alors que Moscou a annoncé hier un début de retrait de ses soldats à la frontière ukrainienne? Eh bien, l'heure est à l'unité nationale dans le pays, un jour de fête décrété par le président Volodymyr Zelensky et suivi à Kharkiv, à l'est de l'Ukraine, 25 km de la frontière russe, par nos envoyés spéciaux Thibault Lefebvre et Jérémy Tuile.
L'hymne national chanté par des choristes habillés en costumes traditionnels, suivi d'un bref concert en playback devant une assemblée d'un peu plus d'une centaine de personnes qui, comme Tatiana, brandissent des petits drapeaux jaunes et bleus. Elle soutient l'initiative de son président, puis explique en russe pourquoi il était important de manifester ce matin.
C'est parce que je suis une patriote, j'aime l'Ukraine. Et je fais tout pour soutenir son unité. C'est une erreur de penser que Kharkiv est une ville pro-russe.
Au premier rang, les représentants politiques locaux qui, malgré les signes de détente des dernières heures, restent très vigilants. Oleh Sinyeubov est le gouverneur de la région de Kharkiv.
Nous devons prouver à l'Ukraine, mais aussi à l'extérieur, que nous sommes une nation unie. Que nous ne cédons pas aux provocations de notre ennemi. Nous sommes prêts à nous défendre jusqu'au bout. La victoire est pour nous et nous sommes prêts comme jamais.
Et le gouverneur ajoute qu'en cas d'attaque, tout est prêt. L'armée, bien sûr, les budgets, mais aussi les réservistes qui restent en alerte.
Thibault Lefebvre et Jérémy Tuile à Kharkiv, à l'est de l'Ukraine. Alors, retrait ou pas, pour l'instant, les Occidentaux n'y croient pas. La Russie continue de renforcer sa présence militaire, dit l'OTAN. Il y a toujours autant de forces russes à la frontière, selon Paris, ce soir. Comment être aussi sûr? Comment faire pour savoir si les Russes disent vrai? Pierre Servant est expert en stratégie militaire.
Il y a en fait trois biais pour vérifier s'il y a retrait ou pas. D'abord, il y a une surveillance satellitaire qui est concentrée maintenant depuis plusieurs semaines sur la zone. Donc ça permet de voir les mouvements de troupes, les mouvements de véhicules. Le second biais, c'est tout simplement les agents secrets occidentaux qui se trouvent en Russie et dont c'est le travail de pouvoir de visu voir les mouvements qui peuvent s'opérer ou non. Et puis il y a un troisième biais aussi qu'il ne faut pas sous-estimer, qui correspond à une mobilisation citoyenne de Russes qui sont hostiles à Poutine et à sa politique belliciste et qui opèrent des surveillances, prennent des photos, mettent en ligne sur Internet des vidéos. Il y en a même certains qui utilisent utilisent des drones. Ce sont donc, encore une fois, des citoyens tout à fait de base, mais qui surveillent également ce type de mouvement. Donc, en croisant ces trois types de regards, on peut avoir une photographie à peu près précise de ce qui se passe réellement.
Pierre Servent, joint par Christian Chéneau. L'autre point chaud pour la diplomatie européenne, c'est le Sahel. Emmanuel Macron réunit ce soir à Paris plusieurs dirigeants africains et européens. Tout cela à la veille du sommet Union européenne-Union africaine à Bruxelles, avec une question sur la table. Faut-il se retirer du Mali alors que la junte militaire au pouvoir ne veut plus de la présence française sur son sol? Le président de la République tiendra une conférence de presse sur ce sujet demain matin à l'Élysée.
La campagne présidentielle est un nouvel épisode dans la guerre qui oppose Marine Le Pen à Éric Zemmour.
Oui, on craint les taupes au Rassemblement National, comprenez des cadres qui pourraient trahir et confier des secrets de campagne aux rivales d'extrême droite. Voilà pourquoi le RN a choisi hier soir de suspendre l'un de ses cadres historiques, l'eurodéputé Nicolas Bay, accusé de sabotage, lequel annonce qu'il va déposer plainte pour diffamation. Bonsoir Yael Gauze.
Bonsoir Jérôme.
Alors Nicolas Bay est-il en passe de rejoindre Éric Zemmour?
Oui, ça va aller très vite, ce sera chose faite dans moins de 24 heures et Éric Zemmour viendra lui rendre visite chez lui samedi en Normandie. En attendant, il règle ses comptes devant la justice. Nicolas Bay, via son avocat Frédéric Pichon, a bien déposé plainte en diffamation cet après-midi. Alors pas pour les mots doux de Marine Le Pen qu'il a qualifié de limace poisseuse, mais pour ses accusations de trahison. Comment pourrais-je avoir fait passer des documents de campagne alors que je n'avais pas accès aux réunions stratégiques, s'agace Nicolas Bay en petit comité. Il faut dire que ça fait des mois qu'il est dans le viseur de Marine Le Pen, soupçonné de rouler pour Marion Maréchal. D'ailleurs, côté Zemmour, on ne s'en cache pas, ce ralliement de Nicolas Bay est censé préparer le terrain à un atterrissage beaucoup plus spectaculaire encore, celui de la nièce de Marine Le Pen avant le premier tour. Objectif, continuer à mordre sur l'électorat LR, tendance Ciotti, pour affaiblir encore Valérie Pécresse. Nicolas Bay, en coulisses, ne s'en est jamais caché. À l'automne, il scrutait déjà l'évolution des courbes Zemmour-Le Pen. La simple inversion ou égalité avec celle de Pécresse aura suffi. Pourquoi partir? Parce que Nicolas Bay est convaincu que la recomposition commence dès maintenant, à droite, défaite ou pas d'Éric Zemmour.
Information signée Yael Gauze. À gauche, Christiane Taubira est toujours à la peine pour récolter ses parrainages. 73 pour l'instant sur les 500 demandés. Ses partisans prévoient de manifester ce soir devant le Conseil constitutionnel pour dénoncer, je cite, les méthodes employées par Europe Écologie Les Verts et par le Parti Socialiste. Voilà près de trois semaines maintenant qu'il est recherché, le policier parisien soupçonné du meurtre de sa compagne fin janvier. Il demeure introuvable et on a appris aujourd'hui que son véhicule, son arme ainsi que deux chargeurs pleins avaient été retrouvés ce week-end à Amiens. À Grenoble, au procès de Nordal Lelandais, les avocats de la famille de Maëlys ont pris la parole aujourd'hui face à la cour d'assises de l'Isère après près de trois semaines de débats. Bonsoir Mathilde Vinceneux.
Bonsoir.
Ils sont venus dire toute la douleur des proches de la petite fille de 8 ans enlevée et tuée en août 2017.
Je suis sûre que comme moi, vous l'avez vue, Maëlys, qu'elle a été là, que vous avez senti sa présence, commence l'un des avocats du père de la petite fille, Maître Vatinel, parle des dernières images de Maëlys ce soir de mariage. Elle est portée haut dans le cœur et fort dans les bras par ce père qui est loin, très très loin d'imaginer le gouffre vers lequel il va sombrer. Lui, ses larmes sont sèches, il a tout épuisé, il vit comme un mort-vivant, poursuit le deuxième avocat, Maître Boguet. Il a quand même été capable de détourner son regard vers le vôtre, Nordal Lelandais, et de dire « J'ai de la pitié ». Vous entendez les mots de ce père dont vous avez fracassé l'existence? La pitié du père de votre supplicié, emportez-la dans votre cachot. Puis c'est l'avocat de la mère et de la grande sœur de Maëlys qui se lève, et c'est vers cette grande sœur que Maître Rajon se tourne d'abord. « Colline, tu vas devoir trouver la force de te relever, la force de croire en ton avenir. Ne laisse personne, personne, Colline, et sûrement pas cet accusé assis dans le box, te tirer vers le bas. »
Mathilde Vinceneux en direct de Grenoble avec les moyens techniques de Thibault Nassim Ben. Le réquisitoire de l'avocat général et la plaidoirie de la défense sont attendus demain. Au procès de l'assassinat du père Jacques Hamel, les policiers qui ont abattu les deux terroristes en juillet 2016 ont demandé aujourd'hui à être entendus à huis clos. Ils ne veulent pas être reconnus et ainsi mettre en cause leur sécurité. Trois complices présumés des djihadistes sont jugés depuis lundi devant la cour d'assises spéciale à Paris. Là, il n'y aura pas de procès. La cour de cassation a rejeté aujourd'hui le pourvoi de la famille du chinois Shao Yao Liu, tué en 2017 par un policier à son domicile. Le fonctionnaire de police avait déjà bénéficié d'un non-lieu. La mort de Monsieur Liu avait déclenché une série de manifestations de la communauté chinoise à Paris.
Et puis, Jérôme, 370 000 patients les utilisent en France.
Les respirateurs de marque Philips, utilisés notamment contre l'apnée du sommeil. Voilà 6 mois que le groupe néerlandais a reconnu que leurs particules pouvaient être inhalées, provoquant des maux de tête, voire un risque de cancer à long terme. Vendredi dernier, l'Agence nationale de sécurité du médicament a ordonné à Philips d'accélérer le remplacement de ses appareils défectueux. Aujourd'hui, la Fédération française des insuffisants respiratoires annonce qu'elle va déposer plainte. Plainte contre X pour faire la lumière. Son administrateur Christian Trouchot.
Avant toute chose, ce qu'on espère, c'est d'obtenir des réponses aux questions. Quel va être notre futur médical ? Qu'est-ce qu'on risque réellement avec cette dégradation de mousse ? Quels moyens il va mettre pour changer tous ces appareils, alors que depuis 2015, maintenant c'est sûr, Philippe s'était informé. C'est ça que nous voulons savoir. Les personnes ne courent pas après l'argent. Avant toute chose, elles courent après leur santé, c'est la peur. Moi, j'ai eu des personnes qui m'ont dit, j'espère qu'on sera indemnisé, cet argent, on le mettra de côté pour le futur, parce que si on a un cancer, on va devenir quoi ? Je pense qu'on a été largement conciliant d'avoir attendu aussi longtemps. La voie judiciaire paraît la plus sage pour avoir les réponses à nos questions.
Christian Trouchot, administrateur de la Fédération française des insuffisants respiratoires, au téléphone d'Anne Orenstein. Dans le même temps, cette fédération demande aux patients qui utilisent ces respirateurs de continuer à le faire à court terme. Il serait plus dangereux, dit-elle, d'arrêter totalement les traitements. C'était un trou dans la raquette du bouclier tarifaire voulu par le gouvernement. Les résidents de copropriété, locataires de HLM également, n'étaient pas concernés par le gel des prix du gaz et de l'électricité, car pas directement client d'un fournisseur. 5 millions de ménages concernés, eh bien un dispositif d'aide d'urgence sera mis en place, annonce le Premier ministre Jean Castex. Une aide équivalente au blocage des tarifs et qui sera répercutée directement sur les charges.
La réouverture des boîtes de nuit, c'est pour ce soir, mais ce n'est pas forcément une bonne nouvelle.
Oui, depuis plusieurs mois, les services de police font remonter les cas de victimes du GHB à forte dose. Cette drogue peut faire tomber celui ou celle qui la consomme dans un profond sommeil et elle est parfois utilisé par des agresseurs pour commettre agression sexuelle ou viol. Hier, le gouvernement a lancé une campagne de sensibilisation. Bonsoir Mathilde Dehimy.
Bonsoir Jérôme.
Cette campagne va se déployer précisément dans les discothèques.
Campagne d'affichage d'abord, notamment dans les toilettes, à destination des victimes ou de leurs amis. L'idée est qu'ils soient, via un QR code, en contact directement avec des policiers et des gendarmes spécialisés. Le plan prévoit qu'eux aussi, systématiquement, si une personne est hospitalisée, des prélèvements toxicologiques et ADN soient diligentés. Le GHB disparaît rapidement dans le sang. Il faut donc aller vite, rappelle Christian Sainte. C'est le grand patron de la police judiciaire de Paris et il se dit marqué par l'état dans lequel arrivent parfois les victimes.
Cette amnésie les frappe assez rapidement. Ils ne se souviennent plus du tout de la raison d'être de leur présence dans l'établissement. Ce qui est important, c'est la réactivité. Donc il est important qu'on puisse faire des analyses assez rapidement. Plus tôt on peut intervenir et plus tôt on se donne la possibilité d'identifier ceux qui ont administré ces produits.
Les policiers pourront aussi former les professionnels pour repérer les comportements suspects. Depuis longtemps, les associations alertent sur la hausse de l'usage de GHB. Consentis.info notamment, qui attend de voir si ce plan sera bien concret. Sa présidente Mathilde Neuville.
Il y a eu que l'angle du GHB qui a été évoqué. Nous, on travaille sur les violences sexistes et sexuelles dans les milieux festifs depuis 4 ans. On voit que le problème est plus large que cela, avec la notion de consentement. On attend de voir s'il y a des moyens qui sont mis en place par le gouvernement pour former les professionnels des milieux festifs, donc des bars, festivals et boîtes de nuit.
L'usage de GHB est une circonstance aggravante, punie de 5 ans de prison maximum et 75 000 euros d'amende.
Explication Mathilde Dehimy. J'ajoute au calendrier de l'allègement des contraintes sanitaires cette déclaration du ministre de la Santé Olivier Véran qui envisage la fin du port du masque en intérieur pour les adultes et les enfants à la mi-mars, donc dans un mois, si la circulation du virus, dit-il, est très faible. Et puis si vous habitez Paris, préparez-vous à marcher vendredi. Perturbation attendue dans les métros et les RER suite à un préavis de grève déposé à la RATP. 8 lignes de métro seront fermées et sur 6 d'entre elles, le trafic sera fortement perturbé.
Merci beaucoup Jérôme Cadet, bien sûr. À tout de suite dans Un jour dans le monde, dans Sous les radars, vous nous parlerez notamment de la mort d'un chanteur indien qui chavire tout le pays tant il était populaire. Ce soir, nous allons entre l'Afrique et l'Europe pour ce mini-sommet d'abord consacré à la fin de l'opération Barkhane et puis rendez-vous aussi à Bruxelles entre l'Union Européenne et l'Union Africaine. Ça, ce sera pour demain. En deuxième heure, le téléphone sonne, c'est à 19h20. Je vous le remets dans l'oreille. On parle des présence à l'oral ce soir, de la peur panique de certains avant de prendre la parole en public, de la catastrophe que ça peut être quand on ne sait pas faire. Vous devinez un petit peu pourquoi on pose cette question ce soir. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que ça soigne tout cela, ça se travaille, ça s'apprivoise même. C'est ce que vous allez nous raconter et partager avec nos invités au 01 45 24 7000. Un œil sur le ciel peut-être ?
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Sébastien Léas, bonsoir. Du vent ce soir et cette nuit.
Oui, bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. Le pays est dans le sillage de la tempête Dudley qui glisse actuellement de la mer du Nord vers les pays scandinaves. Déjà bien soutenu aujourd'hui, le vent va continuer de se renforcer ce soir et cette nuit. De violentes rafales sont attendues entre les Hauts-de-France et la Normandie avec des pointes à plus de 100-110 km/h. La tramontane va aussi s'accélérer dans son domaine. Le Grand Est aura aussi beaucoup de vent cette nuit, mais avec des rafales quand même moins fortes. Et puis demain, ce sont les Alpes et le Var qui seront balayés par de fortes rafales de vent.
Et sinon, retour des éclaircies au nord.
Oui, la matinée sera même bien ensoleillée entre les frontières de la Belgique, le bassin parisien et l'Orléanais. L'après-midi, le soleil sera un peu plus voilé. De belles éclaircies se développeront aussi sur le Grand Est et la Bourgogne, même si la matinée sera plus mitigée. Et puis autour de la Méditerranée, la journée se passera souvent sous le soleil. En revanche, sur le reste du pays, ce sont les nuages qui l'emporteront demain. Des passages pluvieux sont même attendus, surtout demain matin entre l'Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes, les pluies devenant plus localisées après la mi-journée. L'ambiance va rester très douce avec des températures maximales qui seront généralement comprises entre 11 et 16 degrés. Prévoyez 11 degrés à Lille et à Rouen, 14 degrés à Strasbourg, Paris, Rennes, Bourges, La Rochelle ou encore Agen, 16 degrés à Lyon, Biarritz et Bastia. Autour de la Méditerranée, la douceur sera encore plus marquée, 20 degrés à Marseille, 21 degrés à Montpellier et 23 degrés au Luc dans le Var.
Et Sébastien Léas de Météo France, merci beaucoup. À tout à l'heure Sébastien, juste après 19h.